Bon, nous sommes dans ce qu'on appelle la vague des plans. On a eu le plan de santé publique pour les écoles, on a eu le plan éducatif pour les écoles, puis hier, on a eu le plan pour la deuxième vague potentielle à venir. Comment on va équiper le réseau de la santé pour ne pas répéter les mêmes erreurs que le printemps dernier? On va commencer avec Luc, tiens.
Bien, tout ce qui est proposé fait beaucoup de sens. C'est maintenir un accès sécuritaire pour les proches aidants, sécuriser les déplacements dans les CHSLD, pas de déplacement entre les CHSLD, un gestionnaire par CHSLD, réduire les délais de l'ensemble du processus de dépistage. Bon, tout ça, c'est tout ce à quoi ça me fait penser. Le film Pulp Fiction. Dans Pulp Fiction, tu sais, t'as Samuel Jackson puis John Travolta qui tirent à bout portant alors qu'ils n'étaient pas supposés le faire. Ils tirent un gars dans leur auto. Puis là, l'auto est maculée de sang. Il y a des bouts de cerveau partout. Puis là, il s'arrête chez un membre de la mafia puis il dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Il dit « Attends une minute, je vais faire venir le professionnel. » Puis là, ils l'attendent. Puis là, le professionnel arrive, il est impeccable, soute impeccable, lunettes soleil. Il dit « OK, toi, prends des essuie-tout. Toi, prends du fantastique. Toi, prends un aspirateur. Puis OK, maintenant, on va laver le char. » C'était ça, son conseil d'expert. C'est un conseil de ménagère. C'est que tout le monde sait qu'il faut faire ça. C'est ça, le plan d'action, là. C'est que ce qui est écrit là, ça s'est discuté pendant des semaines et des semaines et des semaines. On le sait tous qu'il faut sécuriser l'accès aux CHSLD. On le sait tous qu'il ne faut pas qu'il y ait de déplacement entre les CHSLD, de professionnels, mobilité du personnel, etc. On le sait tous que le gestionnaire, il faut qu'il prenne des décisions s'il manque de personnel. Alors, moi, ça m'a fait rire aux éclats parce que c'est des basics, là. Alors, par contre, j'ai rien entendu sur si ça se produit pas comme ça. Déjà, c'est quand même bien d'avoir pris les leçons du passé, puis de les appliquer, puis de les mettre sur un papier, puis de dire, bon, les leçons du passé, on les a comprises, puis on va agir en conséquence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas si bien que ça? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si le virus dont on dit qu'il serait peut-être en train de muter, là, mais qui mute ou qui mute pas, là, il attaque plus les jeunes, parce que c'est plus les jeunes en été qui sont dans des groupes, etc. Et il y a quand même des impacts importants, bien qu'il n'y ait pas de mortalité, sur l'odorat, des impacts de très longue durée, sur les poumons, les gens qui se font entuber avec les poumons, avec les respirateurs ont des problèmes de poumons graves pendant des années. Mettons que ça monte un peu, les statistiques montent un peu, puis que là, les jeunes professionnels décident qu'ils ne rentrent pas au travail parce que c'est trop dangereux. Ils ne vont pas mourir, là, mais ils trouvent que c'est trop dangereux de l'attraper. C'est quoi le plan? Moi, c'est ce genre de scénario-là que j'aurais voulu entendre.
Ouais, ben, cher commissaire, je dois dire que je suis pas mal d'accord avec toi, Luc, parce que ce qui m'a frappé, bon, comme tu dis, c'était du gros bon sens. D'ailleurs, une chose, moi, qui vraiment me ravit, là, mais le ravit beaucoup, c'est cette idée que enfin, on va parler d'imputabilité au niveau du gouvernement et des services gouvernementaux et des patrons de ces services. Depuis le temps qu'on attend ça, maintenant, bon, évidemment, la preuve est dans le pudding, comme dit la reine d'Angleterre. Mais je pense que ça va se passer. Je pense que Monsieur Legault a un petit peu mis la peur de Dieu là chez les dirigeants des CIUSSS et des CIS. Mais quand j'ai regardé les neuf axes, je me suis dit, c'est parce que là, on se prépare pour une deuxième vague qui serait comme la première. On parle pas mal de CHSLD, on parle de gens qui se promènent entre les différents CHSLD, on veut plus que ça arrive. Mais si ça se passe pas dans les CHSLD, on fait quoi? Si les gros foyers d'éclosion sont dans les écoles, par exemple, qu'est-ce qui arrive avec les urgences? C'est comme, j'ai l'impression qu'on... C'était plus que ça... Puis j'écoutais le ministre tantôt, puis mon impression n'est pas vraiment disparue. On veut régler ce qu'on connaît déjà. Je comprends qu'on peut pas régler ce qu'on connaît pas, mais j'aurais peut-être aimé un peu plus de... Ouais, mais mettons que ça se passe pas de toute façon, tout à fait de la même manière. Qu'est-ce qu'on fait?
Et aussi, Lise, pas simplement si ça se passe pas de la même manière, mais aussi la question que Paul a posée en entrevue, comment ça va descendre? Comment ça va se faire? Comment ça va s'appliquer? C'est bien beau, ça, de dire qu'il y aura pas de déplacement entre les CHSLD, mais si tout à coup, il manque de personnel... Là, tu dis oui, mais maintenant, on a des gestionnaires imputables. Mmh. Ah oui, des gestionnaires imputables. Attends une minute, là. Un gestionnaire par établissement, un gestionnaire imputable, mais qui n'a pas de marge de manœuvre sur les budgets, qui n'a pas de marge de manœuvre sur les embauches, ouais. Qui n'a pas de marge de manœuvre sur la convention collective, il n'a pas de marge de manœuvre sur le plan d'affectation des ressources parce que ça, c'est géré par la convention collective. Et où son imputabilité?
Ouais, la pire situation en gestion. C'est quand tu donnes à quelqu'un la responsabilité de quelque chose, mais que tu ne lui donnes pas l'autorité qui va avec.
Puis là, l'autorité, c'est
et
le
là,
système
l'autorité
qui lui donnera
reste
pas.
À Québec.
Ben oui, c'est ça. Et dans le système, c'est hyper, hyper hiérarchisé. C'est pas pour rien qu'il n'y en avait pas dans certains établissements. C'est parce qu'il y avait plus.
Il n'y avait pas besoin.
Ben ouais, c'est ça. Il ne décidait rien. Puis j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont décider, moi, quand il va leur manquer de personnel. On va rendre exigible l'embauche. Ben oui, toi. Une fois qu'il va avoir mis 8 annonces pour embaucher des gens, si les gens viennent pas, parce que par exemple, le pourcentage de diffusion de la maladie augmente, il a beau être imputable, là, ça se produira pas.
J'ai regardé quand même des expériences ailleurs dans le monde. Puis le New York Times a entre autres publié une série d'articles sur les résidences pour personnes âgées, là, les aînés, et c'est un peu partout le même phénomène, là. Aux États-Unis, beaucoup. La Belgique, c'est incroyable.
En Angleterre.
La Belgique, je pense que c'est pire que ce qu'on a vécu au Québec.
La Belgique, c'est vraiment une catastrophe.
C'est de A à Z.
Oui.
Et là, tu te dis, OK, puis là, tu te prépares pour une deuxième vague. Puis un des problèmes qu'on a eu, c'est qu'on a libéré beaucoup de lits en pensant que les gens se ramasseraient à l'hôpital. Puis dans les faits, donc la pandémie a frappé ailleurs. Mais là, tu te dis, en même temps, là, comment tu fais pour t'assurer que des gens qui sont des patients non-COVID là, ont droit à un traitement, ont le droit d'être opérés, ne se ramassent pas sur des listes
internes.
J'ai des courriels, puis je connais des gens. Là. C'est pas des questions de vie ou de mort, c'est des questions de qualité de vie.
Ben, tu sais, quand tu n'es plus capable de marcher, que tu as 50 ans, puis tu n'es plus capable de marcher parce que ton genou, je veux dire, c'est grave. Tu ne peux pas aller faire tes courses, tu peux pas... On peut pas juste mettre ça de côté comme ça en disant « ben elle n'en mourra pas ». Effectivement. Mais puis, il y a toutes sortes de chirurgies électives qui attendent présentement.
Et aussi...
La liste est très longue. Oui.
Puis aussi, il y a eu l'inverse aussi. Hein. Il y a eu des professionnels qui se croisaient les bras parce que les patients ne se présentaient pas. Bon, ça, c'était particulier à la phase 1 de la crise. Personne ne voulait aller à l'hôpital et... moi, j'ai eu un cas très proche de moi, là, où ils l'ont opéré rapidement parce qu'il y avait beaucoup de disponibilité, parce qu'il n'y avait personne sur la file qui se présentait pour les opérations. Alors, bon, c'est ça qu'on aurait voulu entendre creuser un peu. Là.
J'aurais aimé un peu plus de détails sur le dépistage, parce que le dépistage, depuis le début, ça aussi, c'est assez flou. Hein, on promet des cibles, on n'y arrive pas. On ne sait pas trop. Moi, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on n'y arrivait pas. Puis après,
il y a
eu
différentes
semaines,
étapes. Là. C'est-à-dire qu'à
oui,
un moment donné, on manquait d'écouvillons, ça a été un. Après ça, on manquait de personnel, deux. Trois, les tests se faisaient, mais tu n'avais personne pour appeler les patients pour leur dire « by the way, vous êtes négatif ». Quand c'était positif, ça allait plus vite.
Ma fille a attendu 10 jours pour son
réponse.
C'est
ça. Mais il y a eu une série de facteurs. Puis là, on pense simplifier peut-être les tests, donc ça va être moins compliqué, ça va... Mais c'est sûr que ça passe par des tests. Plus tu vas pousser la machine de tests, puis...
Mais ça, au moins, c'est présent dans le plan, hein, l'embauche de 1000 personnes.
Oui, mais il n'y a pas beaucoup de détails, par exemple.
Oui.
Va faire mieux, là, c'est pas un plan, ça.
Oui, mais le fait de faire des suivis par la santé publique, donc ils vont libérer la santé publique. Là, pour l'instant, c'était à la santé publique qui faisait les tests. Il y avait plein de gens à la santé publique qui travaillaient dans bien d'autres domaines, que ce soit le cannabis ou la sécurité routière, etc. Ils avaient dit, vous lâchez ce que vous faites, puis vous allez travailler sur le suivi des patients qui ont été... Là, il va y avoir... ils retournent à leur travail et il va y avoir une équipe de 1000 personnes qui va faire des tests, qui va faire des suivis sur des personnes qui ont été touchées puis qui vont contacter individuellement les gens qui auraient pu être dans leur entourage. Au moins, on sait bout-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas toute l'information.
Mais comme me disait un auditeur en conclusion, c'est-tu le bug de l'an 2000 qu'on prépare, puis finalement, il n'y arrivera rien?
Ça se pourrait, mais sais-tu quoi?
Mais tant mieux!
Mais attends une minute, ça, c'est possible. Mais ce qui est aussi possible, c'est que si jamais il se passe quelque chose, là, on ne leur pardonnera pas, parce qu'on va dire, attends une minute, la première fois, on a compris, là, on s'est fait pogner le culotte baissé, toute la gang, tout le monde, tous les pays du monde. Mais la deuxième fois, par exemple, ça a affaire à marcher.
On s'arrête pour la pause, pour retour. On va parler, évidemment, du départ de Bill Morneau. De la nomination de Mme Freeland puis de M. Trudeau qui ferme le Parlement jusqu'au 23 septembre. 132, Marc.